Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelles sont les véritables causes de l'obésité? Un texte de Gretchen Reynolds du Washington Post paru le 15 juillet 2025 dans Le Devoir. L'obésité est rare chez les chasseurs-cueilleurs Hadza en Tanzanie, les agriculteurs-cueilleurs Timan en Bolivie, les éleveurs-agriculteurs Touva en Sibérie, et d'autres populations vivant dans des pays moins développés. Mais elle est très répandue chez nous, dans les pays riches et hautement industrialisés. Pourquoi? Une étude majeure publiée début juillet 2025 dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, apporte une réponse surprenante à cette question. À partir de données objectives sur le métabolisme et la dépense énergétique de plus de 4000 hommes et femmes vivant dans des dizaines de pays aux conditions socio-économiques très variées, cette étude a quantifié le nombre de calories brûlées quotidiennement par des personnes issues de cultures différentes. Pendant des décennies, l'opinion générale et les messages de santé publique ont supposé que les habitants des pays très développés, comme les États-Unis, étaient relativement sédentaires et brûlaient beaucoup moins de calories par jour que les habitants des pays moins industrialisés, ce qui augmentait considérablement le risque d'obésité. Mais la nouvelle étude contredit cette hypothèse. Elle révèle qu'au contraire, les Américains, les Européens et les habitants d'autres pays développés dépensent chaque jour environ le même nombre de calories que les chasseurs-cueilleurs, les éleveurs, les agriculteurs de subsistance, les cueilleurs et toute autre personne vivant dans des pays moins industrialisés. Cette conclusion inattendue signifie presque certainement que l'inactivité n'est pas la principale cause de l'obésité aux États-Unis et ailleurs, a déclaré Herman Panzer, professeur d'anthropologie évolutive et de santé mondiale à l'Université Duke en Caroline du Nord et auteur principal de la nouvelle étude. Alors, quelle est-elle? L'étude offre des pistes intéressantes sur le rôle de l'alimentation et de certains aliments précis que nous consommons ainsi que sur les limites de l'exercice physique et sur les meilleurs moyens à long terme de prévenir et de traiter l'obésité. Le rôle de l'alimentation et de l'activité physique dans le développement de l'obésité fait encore l'objet d'un débat animé dans le domaine de la santé publique, a déclaré M. Panzer, en particulier dans les pays riches. Certains experts estiment que nous faisons trop peu d'exercice, d'autres pensent que nous mangeons trop, et d'autres, encore, croient que les deux facteurs ont une importance égale. Il est important de comprendre les contributions relatives de l'alimentation et de l'activité physique, a souligné M. Panzer, car nous ne pouvons pas aider efficacement les personnes obèses sans d'abord déterminer l'origine de leur obésité. Mais peu d'études à grande échelle ont comparé avec soin la dépense énergétique des populations sujettes à l'obésité à celle des populations plus résistantes, ce qui serait une première étape pour comprendre les facteurs qui favorisent la prise de poids. Pour cette nouvelle étude, Herman Panzer et ses plus de 80 co-auteurs ont donc rassemblé des données existantes provenant de laboratoires du monde entier qui utilisent de l'eau doublement marquée dans leurs études sur le métabolisme. L'eau doublement marquée contient des isotopes qui, lorsqu'ils sont excrétés dans l'urine ou d'autres fluides, permettent aux chercheurs de déterminer avec précision la dépense énergétique, le taux métabolique et le pourcentage de graisse corporelle d'une personne. Il s'agit de la méthode de référence dans ce type de recherche. Ils ont ainsi obtenu des données sur 4213 hommes et femmes de 34 pays ou groupes culturels issus de tous les milieux socio-économiques, des tribus africaines au cadre supérieur norvégien. ils ont calculé la dépense énergétique quotidienne totale de chaque personne ainsi que sa dépense énergétique de base, qui correspond au nombre de calories brûlées par notre corps lors de ses fonctions biologiques fondamentales, et la dépense énergétique liée à l'activité physique, qui correspond au nombre de calories que nous utilisons lorsque nous bougeons. Une nouvelle théorie sur le fonctionnement de notre métabolisme. Après avoir pris en compte la taille corporelle, car les personnes vivant dans les pays riches ont généralement un corps plus grand, qui brûle plus de calories, ils ont commencé à comparer différents groupes. Ceux qui s'attendaient à constater de grandes différences dans la dépense énergétique, avec les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs-éleveurs en tête, et les employés de bureaux américains bien loin derrière, ont été déçus. Dans l'ensemble, la dépense énergétique quotidienne totale des 4213 personnes était assez similaire, quel que soit leur lieu de vie ou leur mode de vie. Même si les chasseurs-cueilleurs et d'autres groupes similaires se déplaçaient beaucoup plus au cours de la journée qu'un Américain moyen, leur dépense calorique quotidienne globale était presque la même. Ces résultats, bien que contre-intuitifs, concordent avec une nouvelle théorie sur notre métabolisme proposée pour la première fois par M. Panzer. Connu sous le nom de « modèle de dépense énergétique totale contrainte », cette théorie postule que notre cerveau et notre corps surveillent de près notre dépense énergétique totale, la maintenant dans une fourchette étroite. Si nous commençons à brûler régulièrement des calories supplémentaires, par exemple en traquant une proie à pied pendant plusieurs jours ou en nous entraînant pour un marathon, notre cerveau ralentit ou arrête certaines fonctions biologiques secondaires, souvent liées à la croissance, et notre dépense calorique quotidienne globale reste dans une fourchette constante. Le rôle des aliments ultra-transformés. En conclusion, le développement économique n'a aucun effet sur la dépense physique ajustée en fonction de la taille, affirme M. Panzer. Dans ce cas, le problème fondamental n'est pas que nous bougeons trop peu, ce qui signifie qu'il est peu probable que davantage d'exercices réduisent considérablement l'obésité. Alors, quelle est la solution? Nos analyses indiquent que l'augmentation de l'apport énergétique a été environ 10 fois plus importante que la diminution de la dépense énergétique totale dans la crise moderne de l'obésité, écrivent les auteurs de l'étude. En d'autres termes, nous mangeons trop. L'étude avance également que nous mangeons peut-être les mauvais aliments. Dans une sous-analyse des régimes alimentaires de certains groupes issus de pays très développés et moins développés, les scientifiques ont constaté une forte corrélation entre le pourcentage de super-aliments dans l'alimentation quotidienne, définis par les auteurs de l'étude comme des préparations industrielles contenant au moins 5 ingrédients et un pourcentage de graisse corporelle plus élevé. Pour être franc, disons que nous mangeons trop et probablement trop d'aliments mauvais pour la santé. Cette étude confirme ce que je dis depuis longtemps, à savoir que l'alimentation est le principal responsable de l'épidémie actuelle d'obésité, a déclaré Barry Popkin, professeur à la Gillings School of Global Public Health de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et expert en obésité. « C'est une étude bien menée », a-t-il ajouté. D'autres experts sont du même avis. Cette nouvelle étude importante et d'autres recherches montrent clairement que ce sont les changements dans notre alimentation et non notre activité physique qui sont les principaux facteurs de l'obésité, a déclaré Dariush Mosefarian, directeur du Food is Medicine Institute de l'Université Tufts à Boston. Ces résultats ne signifient toutefois pas que l'exercice physique n'est pas important, a souligné M. Panzer. Nous savons que l'exercice physique est essentiel à la santé. Cette étude ne change rien à cela, a-t-il déclaré. Toutefois, celle-ci montre que, pour lutter contre l'obésité, les efforts de santé publique doivent se concentrer sur l'alimentation, ajoute M. Panzer, en particulier sur les aliments ultra-transformés qui semblent être des causes très importantes de l'obésité. C'était « Quelles sont les véritables causes de l'obésité ?» un texte de Gretchen Reynolds du Washington Post paru le 15 juillet 2025 dans Le Devoir.
Protéger les tortues grâce à l'IA, un texte de Sarah Champagne, paru le 20 juillet 2025 dans la presse. Des opérations de surveillance menées sur les berges naturelles de l'Anse à l'Orme, au bord du lac des Deux-Montagnes, utilisaient déjà des drones, mais on y a récemment ajouté l'IA. L'objectif? Dénombrer et mesurer les tortues géographiques au Parc Nature du Cap-Saint-Jacques, dans l'ouest de Montréal. Cette espèce de tortue a ceci de particulier qu'il lui faut une météo parfaite pour se pointer le bout du nez. Les tortues géographiques n'aiment pas le froid ni les chaleurs extrêmes. Elles aiment le soleil, mais pas trop. Le vent, oui, mais pas si fort. L'inventaire des tortues est effectué 3 fois par année, de la mi-mai à la mi-juin, par une biologiste de la ville de Montréal, accompagnée d'un géomètre spécialisé en cartographie et photogrammétrie et d'un pilote de drone. L'opération vise à minimiser l'impact des activités humaines récréo-touristiques sur son habitat. L'espèce est classée vulnérable, selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. La biologiste Stéphanie Giguet, à bord d'une chaloupe, observe les tortues à l'aide de jumelles. L'espace dans l'embarcation est restreint. Elle explique que la température idéale pour apercevoir les testudines, nom scientifique de l'ordre des tortues, se situe entre 15 et 25 degrés Celsius. Après plusieurs mois de démarche, son équipe a accepté que la presse participe à sa dernière sortie sur l'eau, mais seulement pour de rapides prises d'images. On a cependant obtenu carte blanche pour accompagner des experts de l'unité de dronautique, division de la géomatique de la ville de Montréal. Observation en hauteur. Il est 9h39, la chaloupe est prête à prendre le large à partir de la rampe de mise à l'eau du chalet d'accueil du Parc Nature. Quelques kilomètres plus loin, sur la plage, le géomètre Simon Gignac et le pilote de drone Luc Mathieu sont déjà au travail. Ils envoient un message à la biologiste lui indiquant que 22 tortues sont montées sur les billots de ce qu'on appelle le havre aux tortues. 3 vertébrés tétrapodes sont observés sur une hutte de castor abandonnée. Un autre spécimen prend l'air sur une roche. Les tortues sont sensibles au bruit. Elles disparaissent sous l'eau si on s'approche de trop près avec la chaloupe. On connaît bien les populations. Nous savons que nos programmes de rétablissement et de protection des berges fonctionnent bien. Mais je ne pourrais pas vous dire avec exactitude si la population, le nombre de femelles, de tortillons, bébés tortues, ont augmenté ou diminué, indique Madame Giguet. L'époque du calcul à la mitaine par les biologistes est révolue. Après le bref tour en chaloupe, l'équipe de la presse se joint aux géomètres sur la plage. Les tortues ne sont pas des proies pour les oiseaux carnivores. elles ne sont pas effrayées par le drone, qui peut descendre à 20 mètres de la canopée. Le drone est un impressionnant mastodonte, DJI Matrice 350 RTK, muni d'une caméra qui peut quasiment repérer une aiguille dans une botte de foin. Le géomètre ouvre l'écran de son ordinateur portable dans la benne de sa camionnette. Il pointe l'image d'une tortue sous l'eau. De simples jumelles auraient difficilement permis de l'observer. Grâce à un traitement de l'image, l'expert peut créer un index et traiter les captations pour éviter d'identifier deux fois la même tortue. La puissance de l'IA. Actuellement, une autre technologie est au banc d'essai, l'intelligence artificielle. Grâce au nombre de pixels qui composent les images des tortues, l'IA permet de calculer la dimension de chaque spécimen à quelques millimètres près. Mieux, elle permet de différencier les femelles des mâles et de repérer les juvéniles. Simon Gignac dit « Les résultats préliminaires démontrent qu'il est possible de détecter 92% des tortues. On a même repéré des tortues qui avaient échappé à la photo-interprétation. » Il est 10h48. Il y a 15 tortues sur les billots. L'une d'elles regarde vers le ciel. Une autre se jette à l'eau. Le vent se lève, ce qui fait craindre pour l'opération. Au large, la chaloupe de la biologiste contourne une petite île. Deux canards branchus prennent leur envol. Une aigrette déploie ses ailes blanches. Selon le géomètre, la détection par drone avec l'IA a de nombreux avantages sur les suivis traditionnels en chaloupe. La technologie permet un dénombrement plus efficace, un potentiel de mesure précise du nombre de femelles, de la qualité des habitats. L'humain demeure toutefois le roi en temps, a-t-il constaté. Selon les calculs de M. Gignac, une sortie en chaloupe avec extraction des données prend 9 heures. La même opération par drone prend 23 heures. Opération Carapace. 14 152, c'est le nombre de tortues dénombrées au Québec durant leur saison active d'octobre 2024 à mai 2025, dans le cadre du projet Carapace, chapeauté par l'organisme Conservation de la Nature Canada. Le projet consiste à signaler des tortues en danger, notamment sur le bord de la route, lors de leur déplacement pour trouver de la nourriture, changer d'habitat, trouver un partenaire ou pondre des œufs. L'organisme fait remarquer que si l'on ajoute 2 à 3 % de mortalité routière annuellement aux pressions environnementales actuelles, un déclin des populations à long terme est possible pour la plupart des espèces de tortues. C'était « Protéger les tortues grâce à l'IA », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse.
Vérifier les faits, remède contre l'inquiétude de la désinformation. Un texte de l'agence Science Presse paru le 3 juillet 2025 dans La Liberté. S'inquiéter des impacts de la désinformation, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça conduit à davantage vérifier l'info. C'est l'une des conclusions d'une analyse des données de la dernière série d'enquêtes sur les gens et leurs communautés, réalisée en 2023-2024 par Statistique Canada. Ainsi, les gens qui ont rapporté avoir un niveau élevé de préoccupation à l'égard de la désinformation en ligne étaient également plus susceptibles, 69 % de vérifier leurs informations au moyen d'une deuxième source ou de faire du fact-checking, précise l'analyse, contre 22 % pour ceux qui étaient modérément préoccupés et 10 % pour ceux qui n'étaient pas du tout préoccupés. 6 Canadiens sur 10, 59 % se disaient très préoccupés par la désinformation en ligne, contre 14 % qui ne l'étaient pas du tout. Hommes et femmes se sentent également concernés, mais les plus inquiets sont ceux qui ont le plus haut niveau de scolarité. Le niveau de préoccupation augmente aussi avec le revenu moyen. Quel que soit leur niveau de préoccupation à propos de la désinformation en ligne, seulement la moitié des gens, 47 % rapportaient un haut niveau de confiance dans les médias. Toutefois, il faut noter que ce manque de confiance se reflétait à l'égard d'institutions comme le système de justice. Une personne rapportant une préoccupation élevée quant à la désinformation était plus susceptible de rapporter un faible taux de confiance à l'égard du système de justice ou des tribunaux. Et à l'égard de la démocratie elle-même, bien que les résultats là-dessus soient moins nets, certains groupes qui sont moins préoccupés à propos de la désinformation en ligne, comme les plus jeunes ou les moins scolarisés, se sentent moins confiants à propos de la démocratie au Canada. C'était « Vérifier les faits, remède contre l'inquiétude de la désinformation », un texte de l'agence Science Presse paru le 3 juillet 2025 dans La Liberté.
Le nombre d'adolescents contrevenants, toujours en hausse au Québec. Un texte de Alexandre Dansereau-Mathias, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. Le nombre d'adolescents contrevenants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, a augmenté de près de 7 % au Québec dans la dernière année, selon le bilan de 2024-2025. Il s'agit d'une hausse qui se poursuit depuis 2020. On a vu une augmentation des affiliations avec les crimes organisés et les vols d'auto, explique Marie-Josée Audette, directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie. Elle insiste sur le fait qu'une attention particulière est portée sur ces cas qui concernent seulement un petit nombre des jeunes en centre jeunesse pour éviter leur croissance. Le bilan actuel compte plus de 10 000 jeunes, majoritairement des garçons, 78,8%, qui sont tombés sous la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Les principaux délits commis par ces derniers restent les voies de fait, les manquements à une ordonnance judiciaire, les menaces et les vols. Lors de la présentation du bilan, les différentes directions de la DPJ ont insisté sur leur envie de se tourner davantage vers les organismes de réinsertion. Elles expliquent que cette hausse pourrait refléter à la fois une réelle augmentation des délits commis par les adolescents et un durcissement de la réponse des milieux policiers et judiciaires. Les signalements toujours en hausse. Par ailleurs, le nombre de signalements continue d'augmenter au Québec, avec une hausse de 5 % depuis le dernier bilan. Mais moins du tiers des 141 000 signalements ont été retenus dans la dernière année. Le taux de signalement retenu a légèrement baissé, de 2 %. Cette tendance, visible depuis plusieurs années au Québec, est due au choix de prioriser les cas dits « urgents », selon la directrice nationale de la DPJ, Leslie Hill. Cette semaine, elle a souligné dans un article du Devoir qu'il y a trop d'enfants signalés à la DPJ. L'organisme préconise maintenant un changement d'approche. La ligne directrice de cette année, ne pas intervenir tant que ça ne tombe pas sous la loi de la protection de la jeunesse. Pour sa part, Michèle Frenette, directrice de la DPJ de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, a démenti le manque de professionnels affectés au traitement des signalements. Non, tout enfant qui est signalé et qui a besoin qu'on prenne une décision, on s'y attarde. Oui, on a eu des enjeux au niveau de la protection de la jeunesse, mais c'est notre travail. Elle a attribué la hausse des signalements à la pandémie, aux réseaux sociaux et au manque de logements. Inquiet du nombre élevé de signalements, Québec solidaire presse le gouvernement d'agir pour aider les intervenants du milieu. Il faut plus de ressources en prévention pour resserrer les mailles du filet qui protège ses enfants. Mais au lieu de ça, la CAQ coupe dans les services, déplore le co-porte-parole par intérim du parti, Guillaume Clich-Rivard. Parmi les raisons de prise en charge d'un enfant, figure encore en majeure partie, 30 % la négligence. Le seul changement majeur, comparativement au dernier bilan, est le nombre de cas d'exposition à la violence conjugale qui a plus que doublé en une année, passant de 1426 à 3538. Fatigue sur le terrain. En réaction à la publication du bilan, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, a déploré la fatigue des équipes sur le terrain et les mauvaises conditions de travail. Elle souligne, par voie de communiqué, la présence de postes vacants par centaines ainsi qu'une surcharge administrative importante. L'arrivée de Leslie Hill est toutefois bien vue par l'APTS qui souhaite établir une meilleure communication avec la DPJ. La directrice est arrivée en poste à l'automne 2024 à la suite de révélations d'allégations de proximité sexuelle et de trafic de drogue dans un centre jeunesse. C'était le nombre d'adolescents contrevenants toujours en hausse au Québec. Un texte de Alexandre Dansereau-Mathias paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.